dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
11h10, vraiment, vraiment en retard avec notre segment Habs Radio. Denis Gauthier, on s'en excuse. Comment vas-tu?
Ça va très bien, Tony. Aucun problème, t'es pardonné.
Merci beaucoup.
Denis, je suis toujours là pour toi, à t'attendre, puis pour les fans aujourd'hui qui nous ont mis numéro un au Canada. Donc, félicitations à tout le monde à la station aussi. Je suis bien fier d'être avec vous autres cette saison.
Et merci, Denis, et merci à toi et tous nos collaborateurs pour leur passion, leur temps, leur expertise et tout. C'est très apprécié. On ne peut pas le faire sans vous autres. Denis, la liste, finalement, la liste est officielle, elle est sortie. Samuel Montembeault va jouer dans le tournoi des Quatre Nations pour le Canada. Armia et Laine vont être là avec la Finlande. Malheureusement, Suzuki ne fait pas l'équipe du Canada puis Cole Caulfield ne fait pas l'équipe des États-Unis. Qu'est-ce que tu penses de cette non-sélection de Nick Suzuki?
Écoute, c'est sûr qu'il était dans la course. Tu sais, j'ai de la misère à voir vraiment, à part un ou deux noms, là. Je sais que Seth Jarvis a été mentionné, mais tu sais, moi, c'est un gars que j'aime beaucoup, qui a une identité qui est très, très rapide. Donc, c'est peut-être la direction, l'identité que le club voulait aller. Fait que, mais il n'y a pas une tonne de gars à qui je voudrais, présentement, ou cette saison, que j'aurais préféré Suzuki à remplacer un de ces gars-là. Tu sais, Suzuki est quand même un point par match. Sa production offensive est plus qu'intéressante cette saison. La seule chose, c'est qu'il a démontré beaucoup d'inconstance depuis le début de la saison. T'sais, au niveau de son rendement, de son effort, des productions de l'équipe. Pis ouais. C'est sûr qu'il y a une pression qui est quand même énorme là, d'être capitaine du Canadien de Montréal. Puis là, ça va pas bien cette saison. C'est pas le seul responsable, on en convient, mais il reste que c'est pas. Pour moi, c'est pas nécessairement encore un drame que Suzuki n'est pas là. J'aurais aimé le voir là, il aurait certainement pu contribuer à avoir un rôle là, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs à qui j'aurais préféré Suzuki à ceux qui sont là présentement dans l'alignement.
OK, mais on oublie l'identité pour un instant, puis on oublie les joueurs de qui doivent jouer un rôle juste pour un instant. OK, on va revenir.
Ouais.
En principe, par contre, sur le papier, Nick Suzuki est un meilleur joueur au moment... Il est un meilleur joueur que Cirelli, Hagel... Puis Jarvis, n'est-ce pas?
Ben, plus de talent peut-être, mais tu sais, je sais pas si t'as eu la chance de regarder un peu les matchs du Lightning cette année, puis je sais qu'il y a des gens, puis tu sais, je pense que t'as entendu parler, ils sont là parce que l'entraîneur Cooper est là, mais Hagel est quand même dans le top 18, top 20 des marqueurs de la Ligue présentement.
Ouais,
je vois. Puis il joue pas avec Kucherov, puis il joue pas avec Braden Point, il joue sur un deuxième trio. Il joue sur un avantage numérique, mais il joue aussi sur la première unité d'infériorité numérique. Donc, il a un rôle dans toute la facette de jeu. Fait que, tu sais, ça serait manquer de respect à Brandon Hagel de dire qu'il ne mérite pas sa place-là cette saison avec tout ce qu'il donne cette année.
Non, c'est sûr que ces gars-là, tout le monde qui est là, mérite que ce soit sur la première équipe d'équipe Canada. Même là, j'ai vu une liste d'un possible deuxième équipe de Canada. T'sais. Canada a tellement en profondeur, peut faire deux équipes, ça c'est sûr. Puis peut-être la deuxième équipe pourrait même battre la première équipe à un moment donné, comprends-tu? Mais moi, je trouve que c'est un peu plat. T'sais. Mais je trouve que Suzuki, il a plus sa place que Jarvis. Je trouve que Jarvis est un joueur complémentaire au moment qu'on se parle. Mais si toi, tu me dis... Oui, mais c'est des joueurs de rôle, c'est des joueurs pour l'échec avant, c'est des joueurs pour donner de l'énergie à une équipe, un Eagle et un Jarvis pour créer des revirements, ces choses-là. Ça, je comprends à ce point-là. Je me basais t'sais, au talent brut.
Je comprends très bien. C'est pas un tournoi où tu prends les 20 joueurs les plus talentueux, puis là, même si c'était ça, que tu quantifies comment chaque qualité individuelle de chaque joueur versus le patin versus les mains, les qualités de marqueur, le quotient intellectuel hockey, tout ça, c'est toujours subjectif à celui qui prend les décisions, qui met l'équipe ensemble. Le gars, tu sais, il faut toujours se rappeler, dans n'importe quelle équipe, tu vas mettre un dirigeant différent, tu vas avoir une équipe différente. C'est lui la vision qu'il a lorsqu'il est engagé. T'sais, lui, il veut certaines caractéristiques dans des joueurs, il veut une identité d'équipe, qu'elle soit, on est axé sur le hockey IQ, qu'on soit sur la vitesse, sur le jeu défensif. Lui, il a une vision de ce qu'il veut créer, il a un casse-tête à créer, puis il y a des morceaux, il y a des joueurs qui viennent remplir chacun de ces rôles-là, puis de ces morceaux de casse-tête. Fait que, on aurait pu rentrer 8 joueurs différents, puis il y a quelqu'un d'autre dans le monde de hockey qui aurait été déçu que son joueur n'a pas été pris. Puis je comprends ça. C'est sûr que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir plus de joueurs du Canadien là. Ça nous aurait amené un intérêt à vouloir le suivre, le regarder, ce tournoi-là, peut-être un peu plus intensément. Il aurait probablement mérité d'être là aussi, mais tu sais, comme je t'ai dit, moi, tous les joueurs qui sont là méritent aussi au même titre que Suzuki, puis sans favoritisme. Tu sais, je suis un peu déçu, mais je comprends très bien pourquoi que les joueurs qui sont là sont sélectionnés.
Et c'est un message texte intéressant qui vient de rentrer. Suzuki, peut-être pas dans les bonnes grâces d'Hockey Canada parce qu'il a dit non au championnat du monde à la fin de la saison passée.
Ben, écoute, je suis pas nécessairement au courant de tout, si c'est vraiment ça qui a été fait, mais c'est sûr que Hockey Canada a la tête longue, la mémoire longue, excuse-moi. C'est déjà arrivé dans le passé où ça a été non dans les championnats mondiaux juniors pour X, Y raison ou championnats du monde, quand c'est le temps des Olympiques, mais regarde, on passe à côté. Hockey Canada est une organisation qui est très fière de ce qu'il met comme produit à la glace, prend soin de ses joueurs et tout, puis c'est sûr que si tu les as boudés une fois, mais peut-être ça leur tourne une autre fois. Fait que ça serait possible, je dis pas que c'est la raison, mais ça serait pas impossible que ça fasse partie des facteurs.
Un autre texto dit, est-ce que ça prouve que Suzuki et Caulfield ne sont pas de vrais joueurs de premier trio?
Non, pas du tout. Parce que tu as des joueurs dans ces équipes-là qui ne sont pas des joueurs de premier trio dans leur propre équipe. Brandon Hagel en est un exemple. Hagel est juste un deuxième trio avec Cirelli puis avec Nick Paul dans sa propre équipe. T'sais, fait que c'est pas nécessairement que le Canadien a pas de joueur de premier trio dans cette situation-là. C'est que présentement, il y a des joueurs qui sont meilleurs qu'eux autres dans certains rôles, dans certaines positions, mais dans leur identité. Puis, t'sais, peut-être dans le cas de Caulfield, au même titre que on veut des joueurs qui sont un peu moins unidimensionnels que Caulfield l'est. T'sais, on sait que Caulfield a amélioré son jeu défensif. Améliorer son éthique de travail de match en match. Il l'a prouvé cette année, beaucoup plus sur l'échec avant, dans les bagarres, tout ça, mais il reste que c'est un joueur de petite taille, puis que c'est un joueur dans sa façon de jouer qui était peut-être un peu trop unidimensionnel versus ce qu'on a comme alignement présentement pour l'équipe américaine. Fait que, t'sais, ça veut pas dire qu'il pourrait pas être là, mais c'est pas le même genre de joueur qu'on a. Je regarde les ailiers qui sont là. Sur les ailes, là, pour la plupart, à part Clinton Keller, c'est quand même des gros bonhommes. Puis je dirais que Keller est probablement un play driver, qu'on appelle en anglais, un gars
Ouais.
qui tient le jeu beaucoup plus avancé qu'un gars comme Caulfield.
Est-ce que tu dis c'est la même chose pour Caulfield avec les États-Unis, comme un gars comme Kreider est là qui peut marquer des buts, mais il peut aller en avant du net aussi. Moi, j'ai dit plus tôt, là, au moment qu'on se parle, Kreider n'est pas un meilleur joueur de hockey ou pas plus méritant que Caulfield et Brock Nelson non plus. Mais est-ce que tu utilises le même raisonnement pour dire là, que ces gars-là peuvent faire d'autres choses, puis c'est un genre de puzzle, puis il rentre dans le puzzle, puis peut-être Caulfield ne rentre pas dans le puzzle au moment qu'on se parle.
Convaincu que c'est ça. Tu sais, il y a une certaine réputation, Chris Kreider, à travers la ligue, puis c'est un gars qui peut jouer de différentes façons. C'est un gars qui peut jouer à game tough, peut amener de l'offensive. C'est un gars qui... On a probablement un rôle pour lui devant le filet adverse, un jeu de puissance, par exemple. Mais c'est un gars qui est quand même... L'échantillon qu'on a vu de lui au cours des 6, 7, 8 dernières saisons nationales, lui donne un certain respect au niveau de Hockey USA, puis c'est probablement une des raisons. Mais t'as raison, tu sais, en frais de performance pour performance cette année, Caulfield performe mieux que Kreider, mais fait pas partie du casse-tête, malheureusement.
Gros but de Patrick Laine. Denis, la ville capote, là. Quel lancer! Hein?
C'est absolument incroyable. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose, même si nécessairement il y a pas le game shape, il y a pas les répétitions au niveau des séquences de jeu depuis le début de saison, depuis la dernière année au complet. Un lancer, ça se perd difficilement. Fait que quand tu es en bonne position, puis il y a la rondelle sur sa palette, il sera toujours une menace, ça, c'est certain. Fait que ça a été un moment intéressant, électrisant, peut-être. Puis, tu sais, dans tout ce que, quand on s'était parlé mardi, tu sais, moi, ce que j'étais content, puis ce que j'avais hâte de voir, c'est juste le niveau d'enthousiasme que l'arrivée de l'année était en train de générer, puis juste changer le discours qu'on avait sur le Canadien en général, puis d'avoir un petit quelque chose d'autre de positif à parler. Puis,
Ouais.
dans tout ce qu'on a vu après le match, c'était pas un match parfait, mais il reste que il y a une présence, tu sais, il dégage quelque chose, puis
Ouais.
quand il touche la rondelle, les gens étaient là, et les joueurs adverses sont obligés de respecter le fait qu'il est sur la patinoire parce que quand on parlait, là, c'est un joueur élite, fait des choses élites. Fait que, tu sais, ça fait parmi, quand il est à son meilleur, fait partie des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Donc, ça a été une belle soirée pour les Canadiens, puis j'espère que ça devienne juste une habitude qu'on va en prendre à Montréal ici pour le reste de la saison.
Denis, aujourd'hui, je voulais parler du fait que ça doit être tellement difficile, mais toi, t'es beaucoup mieux placé pour moi, donc c'est toi qui vas enchaîner. Mais ça doit être tellement difficile de pas compléter tout le camp d'entraînement et rejoindre ton équipe au 24e match de la saison, être au même shape qu'eux autres, au même niveau, au même rythme qu'eux autres. Les joueurs disaient que Lainey leur disait « J'ai 20 secondes en moi, puis ensuite je suis brûlé. » Le fameux game shape, là, est-ce que tu peux nous parler des difficultés de rater la moitié d'un camp d'entraînement et rater les premières 23-24 matchs quand eux autres, là, les autres, là, sont déjà dans la cinquième vitesse, là?
C'est impossible d'arriver au même niveau que tout le monde à ce temps-ci. T'sais? Puis ça va, je te dirais même pour certains, ils en récupéreront jamais dans la même saison. Il y en a qui réussissent jamais à sortir de la saison de l'autre. Je dis pas que ça va être le cas pour l'année. Il y a eu une belle première performance, mais ça reste qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis je suis d'accord avec lui. C'est un gars qui, t'sais, de nature, c'est pas un gars qui est très fougueux. Fait qu'il a pas, sa dépense d'énergie est pas extrême à chacune de ses présences. C'est un gars qu'on va dire qui est très fluide, très smooth. Fait que, t'sais, il brûle pas de l'énergie, peut-être comme un gars comme Caulfield ou un gars comme Hudson. Fait que, mais cela dit, t'sais, moi, j'en ai raté des camps d'entraînement. J'ai eu une hernie discale au cou une saison. J'ai parti la saison en retard. Puis, t'sais, c'est quelque chose qui est extrêmement différent. T'as beau être dans le gymnase, t'as beau faire du vélo, t'as beau, t'sais, faire de l'extra pré-pratique, puis faire des mountains, puis des lignes, des arrêts, des départs pour te mettre en forme. Mais le niveau de stress dans un match est totalement différent. Puis ça vient encore te gruger plus d'énergie que juste patiner ou faire l'effort qui est demandé. Fait que, t'sais, pour un gars comme lui, d'être obligé de gérer le stress, parce que lui arrive d'une nouvelle organisation, dans une nouvelle ville, dans des nouveaux partisans, nouveau système, nouveau coach, nouveau coéquipier. T'sais, tout est nouveau. Puis t'sais, c'est sûr que t'sais, il en a même parlé de lui-même. Il a consulté un psychologue, t'sais, pour qui l'a amené à se préparer pour ce match-là. Parce que c'est pas facile, t'sais. Fait que lui, c'est un gars déjà qui était susceptible à se faire déranger par son langage interne, je vais le dire de même, là, son message que lui se donne tout seul. Fait qu'il gère l'anxiété, il gère le stress. Puis là, en plus, tu dois faire l'effort, tu dois performer parce qu'il y a des attentes. T'sais, même si on se dit qu'on n'avait pas d'attente pour Patrick Laine, là, on a tout quand même un petit peu. Si on est tous vraiment honnêtes dedans de nous autres, là, on espérait tous voir quelque chose de spécial de lui là, dans le
C'est
premier
sûr.
match. T'sais, puis t'sais, on dit ça va prendre du temps, puis ça va. Oui, mais ça reste que c'est un joueur élite. On a fondé beaucoup d'espoir sur une saison où on voulait être dans le mix, puis on voulait quand même être meilleur que ce qu'on est là. Fait que, t'sais, puis ça va continuer de même. On va se dire, on va donner du temps, mais il reste que des joueurs élites s'en sortiront jamais. Fait que regarde, on va lui donner le temps de se remettre en forme, mais la beauté, dans son cas, comme j'ai dit plus tôt, contrairement à un gars comme Kirby Doc qui a manqué du temps puis qui revient, c'est la qualité élite de Patrick Laine, c'est que c'est un tireur puis il sait se positionner pour lancer des rondelles. Fait que tu sais, dans un mauvais match, Patrick Laine peut en marquer deux, peut en marquer trois. Tu le sais jamais ce qu'il a.
Martin St-Louis l'a mis avec Kirby Doc puis Juraj Slafkovský. Ils n'ont rien fait 5 contre 5. Même là, ils étaient sur la glace pour le but contre. Par contre, c'est un match très serré, très défensif. Il n'y a pas grand monde qui a fait de quoi dans ce match-là. Nick Suzuki a marqué le but de la victoire, évidemment, en prolongation, en 3 contre 3.
Mais
Martin a dit que. Martin a dit qu'il aimait qu'est-ce qu'il a vu à la fin du match, mais parle-moi de la composition de ce trio-là, puis Martin qui dit qu'il aimait qu'est-ce qu'il a vu.
ben, pour vrai, moi, j'ai pas été totalement déçu de ce que j'ai vu tourner.
OK.
T'sais, j'ai quand même été. Je respecte ce que Laine a fait. T'sais, considérant qu'il y a fait un an qu'il n'a pas joué un match de saison régulière, puis il y a juste un match pré-saison, un match et quelques, là. T'sais, Doc, on connaît sa situation. Il jouait pas aussi mal qu'on le disait dans les deux, trois derniers matchs. Malchanceux, mauvaise pénalité, indiscipline. Mais tu sais, on retrouvait quelque chose. Moi, j'ai quand même aimé le match de Slafkovský. Tu sais, pour moi, là, dans le trio, pour moi, c'était lui le meilleur, selon les attentes. J'ai trouvé que c'est lui qui patinait le mieux, qui avait plus d'enthousiasme dans son jeu. Il y a 6 mises en échec, qui c'est un sommet dans la partie. Fait que son implication physique en échec avant était excellente. Sa protection de rondelle a été très, très bonne. Ses sorties de zone ont été majoritairement très bonne. On a vu une séquence où, tu sais, pas paniqué, il a déjoué un gars, il est revenu, il a fait un autre, tu sais, 180, fait une belle passe, mais il avait le contrôle sur la rondelle pendant 5-6 secondes en sortie de zone sans jamais se débarrasser. Fait que, OK, il est moyen, je comprends très bien, mais il a quand même, pour moi, dégagé quelque chose à la patinoire. Puis c'était bien, il se positionnait bien devant le filet, autour du filet, puis il était toujours engagé. Fait que, c'était pas total, tu sais, c'est pas le maximum, c'est pas le Legion of Doom de Philadelphie, là, ce que Lindbergh, Lindros et Leclerc jouent ensemble, parce qu'on avait trois gros monstres qui jouent ensemble. Mais, tu sais, t'as deux gars sur trois qui étaient soit nouveaux ou qui étaient d'une saison difficile. Fait que, je vais être patient là-dedans. Je suis pas déçu de ce que j'ai vu. Je saute pas au plafond encore, là, mais ça m'encourage quand même un peu pour voir ce qui pourrait potentiellement arriver avec trois gros bonhommes comme ça au fil de la saison.
Il y en a qui pensent que, même s'ils ont marqué, que l'année a marqué le dernier match en avantage numérique, que ça peut-être pas marcher avec Caulfield parce que les deux, ils aiment se placer du côté gauche, ils tirent de la droite. Moi, je pense que ça peut bien marcher parce que les gars sont toujours en déplacement. Puis on avait Liney du côté droit dans le premier avantage numérique. Là, deuxième, boum, t'as vu une permutation. Puis lui, il s'est retrouvé du côté gauche. Mais où est-ce que tu voyerais Liney sur l'avantage numérique et Caulfield?
Ben, tu sais, je te dirais que je déteste pas voir Caulfield sur son côté ou ce que le tir sur réception. Liney, pour moi, est un excellent flanker aussi. T'sais, on l'a vu, il a marqué à gauche. Mais on l'a vu dès la première séquence en avantage numérique du match, il était sur le flanc à droite. Il a eu deux bons tirs, raté le filet sur un, il a touché la cible sur son premier. Mais c'est un gars qui peut être très, très dangereux de ce côté-là aussi. Fait que, tu sais, un gars de 6-4, 6-5 qui rentre sur le flanc, qui rentre vers l'intérieur avec un tir foudroyant comme l'un des meilleurs tirs de la Ligue nationale au tir du poignet, ça peut être aussi intimidant pour une boîte défensive et un gardien de but qui arrive sur son côté fort. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas de problème. La façon dont le Canadien joue, lorsqu'il est bon, lorsqu'il est efficace, puis comme on l'a vu contre les Islanders, parce qu'on avait peut-être un peu plus de temps, eux sont en difficulté cette année en infériorité numérique. Pour moi, il y avait tellement de permutations. T'sais, j'ai vu Suzuki jouer à quatre positions pendant le même avantage numérique. Là. Sur le flanc, en haut, bumper, puis dans le filet à un certain moment donné. Fait que, tu sais, pour moi, là, ça me dérange pas. Tu vas avoir une structure de base, mais avec la permutation, d'avoir Liney et Caulfield changer de côté selon où la rondelle est et selon où on récupère puis les possessions de rondelle, j'ai aucun problème parce que ces gars-là peuvent être des menaces de partout. Parce que la plus grande menace, c'est un tir. Fait que ton tir, tu peux l'envoyer de partout puis il est dangereux.
Denis, en terminant, moi, je pense pas que les Canadiens vont faire les séries cette année. Là. Je l'avais déjà dit en pré-saison, je changerai pas mon opinion. Par contre, je suis en désaccord avec ceux qui pensent que la saison pour eux est déjà finie parce que d'habitude, 80% des équipes qui sont dans un place en série pour l'action de grâce aux États-Unis vont le faire. Puis, tu sais, les Canadiens ont des matchs très prenables devant eux dans les prochaines trois semaines. Est-ce que, sans dire qu'ils vont être dans les séries, évidemment, mais est-ce que tu as l'impression que le Canadien, tu sais, les prochaines trois semaines vont être vraiment déterminants?
Oui, 100%. J'en ai parlé cette semaine au 5 à 7. Tout le mois de décembre, là, jusqu'à Noël, là, pour moi, est une séquence de matchs où on joue pour la majorité des adversaires prenables. Là. J'enlève les Jets de Winnipeg de cette équation-là. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas gagner. Là.
Oui, c'est ça.
Mais jusqu'au 28 décembre où on s'en va en Floride et Vegas, là, à partir de là, tu joues Détroit deux fois, tu joues Buffalo, Pittsburgh, Anaheim, Nashville ce soir. Tu as des matchs qui sont un peu moins épeurants, un peu moins intimidants. Puis la vérité, c'est que la saison pour moi, pour les séries, à mon opinion, puis comme la tienne, c'est terminé. Mais ça veut pas dire que tu peux pas jouer des matchs qui veulent dire de quoi dans un mois ou deux. Si tu gagnes pas, exemple, 5 de tes 7 prochains matchs, là, t'es revenu dans le mix. Tu sais, parce que t'es pas à une distance incroyable qui est hors de portée puis qui est impossible de remonter et de te remettre dans le mix. Fait que, tu sais, moi, ce que je veux voir, c'est des performances constantes qui vont te ramener d'une position où tu vas te mixer aux groupes qui sont un peu plus proches du mix puis que là, ces matchs-là après Noël ou proches de la date limite des transactions vont te permettre d'y croire, même si ça va être difficile, mais des fois, c'est juste de le sentir, de le goûter puis de le voir au classement que t'es pas si loin, ça amène un petit stress puis ça amène une petite pression de plus que je veux que les joueurs vivent. C'est important de les vivre, ces émotions-là, puis de jouer des matchs comme ça, puis pas d'arriver au mois de février où tu t'es tellement loin des séries que ça devient facile de jouer au hockey parce qu'il n'y a plus de pression, puis c'est là qu'on devient bon. Ça, pour moi, c'est aussi inquiétant. Fait que je veux voir des matchs à la fin de l'année qui vont être plus proches du mix puis qui vont me donner raison. Fait que le mois de décembre, pour moi, comme tu l'as mentionné, là, c'est très important. Les 5, 6, 7 prochains matchs, là, donnez-nous une bonne séquence, puis on se met dans une position qui a de l'allure.
Ils veulent se donner une chance, là, c'est le temps d'aller sur un lancer. Là, c'est le temps. Là, c'est la fenêtre. Là. Et exact. Denis, en terminant, toi qui as déjà joué à Calgary, il y a un couple de soirs, la soirée de Johnny Gaudreau à Calgary, c'était quelque chose. Là, son père, il a dit, tu sais, les meilleurs partisans du hockey sont à Calgary. Hey, quelle soirée émotive. Là. Je n'ai plus juste imaginé être dans l'aréna, être dans le Baptiste. Là, quand ils ont appelé, quand ils ont nommé Johnny Gaudreau, la première étoile du match.
Mm-hmm. De voir la mère pleurer dans l'âge, le père embarquer sur la glace.
Ça brise le cœur.
Ah ouais, ça brise le cœur. Là, tu m'en parles. Je revis le moment, j'ai des émotions, ben, je l'ai regardé. Mais tu sais, il n'y a rien qui me surprend plus. J'ai joué, j'ai été 7 ans dans l'organisation des Flames. J'ai été 9 ans dans l'organisation, puis je pense 7 ans pour jouer pour eux autres, ou à peu près.
Ouais.
Tu sais, c'est un groupe de propriétaires qui, en partie, a changé depuis, mais il y en a encore qui sont là. Mais tu sais, c'est une famille. Ils traitent leurs joueurs très, très bien. Puis Craig Conroy, qui est le directeur général aujourd'hui, c'est mon ancien co-chambreur sur la route pendant que j'étais à Calgary pour une couple de saisons. On était ensemble, puis c'est un bon ami à moi. Puis ça me surprend tellement pas. C'est un gars qui a tellement du cœur, qui a tellement des belles valeurs. Ça me surprend pas le genre d'événement qu'on a mis en place pour la famille Gaudreau. Puis les partisans, tu sais, on parle beaucoup des partisans à Montréal, puis c'est vrai que c'est probablement les meilleurs dans la ligue, mais tu sais, Calgary, tout, ils ont supporté leur club, puis on a vu dans le passé avec le Red Mile, puis tu as probablement 16-17 000 chandails rouges des Flames à chaque match qui sont là, tu sais, qui des vrais partisans qui portent fièrement les couleurs des Flames de Calgary, mais tu sais, l'attention qu'on a fait là pour la famille, pour les amis, pour moi, ça a été... tu sais, ça réparera jamais le dommage qui a été fait. Ça donne une dose d'amour à ces gens-là qui en ont grandement besoin présentement. Puis je suis tellement pas surpris de l'organisation des Flames qui ont mis en place cet événement-là. Donc, beaucoup de respect. Puis je suis bien, bien content pour eux.
Merci, Denis.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Voilà, Denis Gauthier d'RDS.